Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons nos nouvelles du ciel avec Denis. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gisèle. Ravi de vous retrouver sur ce plateau.
Nous allons voir aujourd'hui ces nouvelles du ciel. Et quelles nouvelles, puisque en principe l'été, tout le monde joue à regarder et à compter les étoiles filantes. Et donc ça va être notre principal sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces étoiles filantes ?
Ah, les étoiles filantes.
Ça, c'est...
J'espère que vous faites de temps en temps un vœu que vous envoyez dans le ciel. Bon, ça, c'est...
C'est le côté ludique, on
oui.
va dire.
Tout à fait. Justement, les étoiles filantes, ça suscite non seulement l'émerveillement pour les gens, notamment pour les plus petits, ça suscite aussi une curiosité.
Oui.
Une curiosité aussi qui est scientifique. Les étoiles filantes, en fait, ce sont des particules solides.
Oui.
Qu'on appelle aussi météoroïdes, pour
oui.
utiliser le terme exactement, qui rentrent donc dans l'atmosphère. Et en rentrant dans l'atmosphère, eh bien, ces corps solides se consument grâce à un certain nombre de phénomènes physiques qui sont liés aux forces de frottement de l'air, au contact de ce caillou, de cette météoroïde. Et également, il y a des phénomènes de compression avec l'air qui va échauffer le caillou à des températures qui peuvent s'élever autour des 1600 degrés Celsius.
Donc c'est carrément.
C'est quand même considérable. Et ça va donner naissance à cette traînée que nous voyons dans le ciel. Et ce phénomène-là, on appelle ça des météores. Vous avez des petits météoroïdes et puis vous avez des objets qui sont beaucoup plus importants. Alors, ça peut varier grosso modo entre les dimensions entre 30 micromètres à peu près et jusqu'à 1 mètre. On peut avoir des objets quand même relativement importants qui peuvent se fragmenter dans l'atmosphère.
Oui.
Et donner à des éclats lumineux qui peuvent être plus brillants que celui de la planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger, qui est la planète la plus brillante du ciel. On peut avoir des éclats particulièrement importants.
Oui.
Oui, vous voulez me poser une question.
Oui, parce que d'après ce que je comprends, ces morceaux de météores... ou de météorites, je ne sais pas comment il vaut mieux dire.
Météorite, c'est le résidu que nous récupérons sur Terre.
Oui,
d'accord. Parce que les corps, soit ils se consument totalement dans l'atmosphère, d'accord, ou alors ils peuvent se consumer de façon partielle. Et dans ces cas-là, nous pouvons récupérer un résidu sur Terre qu'on appellera météorite.
D'accord. Alors, les morceaux de météores qui se baladent dans l'espace, on va dire, n'ont pas les mêmes frottements, la même vitesse que quand ils rentrent dans l'atmosphère, c'est
Alors, voilà, tout à fait. D'abord, il s'agit de s'interroger comment font que ces météorites pour rentrer dans l'atmosphère.
Et oui, bien sûr, puisqu'ils se baladent déjà partout.
Voilà, exactement. D'où proviennent ces météorites ? Ces météorites donc, qui rentrent dans notre atmosphère, ce sont des résidus cométaires. Tout au fin fond du système solaire, vous avez un réservoir cométaire.
Oui.
Et sous l'effet de l'attraction de solaire et du vent solaire, le vent de particules émis par le soleil, eh bien, il y a certains morceaux, qui peuvent se détacher de ce réservoir et être attirés donc, par le soleil. Ce qui se passe, c'est que ces corps, quand ils se rapprochent à fur et à mesure du soleil, vont dégazer, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de molécules d'eau, entre autres, qui vont se sublimer à fur et à mesure que le corps se rapprochera du soleil. Et là, vous allez avoir la formation de ce qu'on appelle une coma, une queue.
Oui.
Et on appellera ça une comète.
D'accord.
Et les comètes traversent le système solaire.
Oui, c'est pour ça qu'on les voit.
Tout à fait. Je parle bien des comètes.
Oui,
hein, d'accord,
oui, tout à fait.
Les comètes, lors de leur passage, laissent des résidus
oui.
sur leur trajectoire. Et comme l'ensemble des planètes tourne autour du Soleil, hein, dont la Terre,
oui.
eh bien, à certaines périodes de l'année, eh bien, la Terre va rentrer en interaction avec ses résidus cométaires.
Oui.
Et ces résidus cométaires, en fait, sont constitués de ces fameuses météoroïdes.
D'accord.
Et c'est comme ça que, sous l'effet de l'attraction terrestre, eh bien, ces poussières, d'accord, vont pénétrer dans l'atmosphère.
Elles sont attirées, en fait.
Voilà, attirées, et donner naissance à ces fameuses étoiles filantes,
oui.
hein, qui sont ces météores, hein, ces phénomènes lumineux,
mm-hmm.
ces fameuses météoroïdes qui rentrent dans l'atmosphère et qui se consument. Et en se consumant, avec leur vitesse, eh bien, ça peut donner des queues, hein,
oui, oui.
plus ou moins lumineuses. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 tonnes, hein, 100 000 tonnes de particules qui peuvent pénétrer dans l'atmosphère.
Oui.
Hein, à des vitesses variables qui peuvent varier de 40 à 70 km par seconde.
Ah oui,
voilà.
Ça va vite.
Si je prends le cas, par exemple, des Persides, parce qu'on donne des noms hein,
oui.
aux familles d'étoiles filantes
oui.
en fonction de leur provenance, en fait.
Oui.
Persides, par exemple, hein, sont des étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée.
Oui.
C'est une constellation qui est proche, en fait, de Cassiopée.
Oui.
Ces étoiles-là peuvent atteindre 56 km par seconde.
Oui.
Et si vous faites le calcul, hein, si vous convertissez ça, hein, vous adorez ça, Gisèle,
oui.
les conversions, les distances, vous multipliez ça par 3600, d'accord, et vous avez le résultat en kilomètres par heure. Et devinez combien ça fait, ben, ça fait aux alentours de 200 000 km heure. Je ne sais pas si vous réalisez.
Ça doit décoiffer.
Si vous comparez par rapport à votre vitesse, bon, il n'y a pas encore de radar pour les étoiles filantes.
Le radar, il suffoque.
Non, mais vous vous rendez compte,
c'est
déjà,
vrai,
pour ces
énorme.
Étoiles filantes, ça peut atteindre donc les 200 000 km
oui.
par heure, hein, la vitesse de ces fameuses météoroïdes qui traversent
oui.
l'atmosphère. Généralement, c'est sous des altitudes de l'ordre des 150 km d'altitude de hauteur. Hein.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui fait qu'elles n'ont pas toujours toutes la même couleur? Est-ce que c'est les gaz qu'elles contiennent?
Oui, tout à fait, exactement. Hein. Il y a des variantes au niveau de la composition
oui.
chimique. Hein. Vous avez des météoroïdes qui peuvent contenir plus de fer, plus de nickel, entre autres.
Mm-hmm.
Hein. En fonction de leur composition chimique, eh bien, elles auront une couleur bien spécifique, hein. Tout à fait. Voilà.
Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait, comme on l'a dit tout à l'heure, des plus gros morceaux et là, ils ne vont pas tous se consumer?
Alors,
est-ce qu'ils vont tomber sur la Terre? Est-ce qu'ils vont pouvoir graviter aussi ou pas?
Alors là, on a affaire à ce qu'on appelle des bolides,
oui.
d'accord, c'est-à-dire des grosses météoroïdes, d'accord, qui en rentrant dans l'atmosphère pourront se fragmenter.
Oui.
Hein
oui.
Et certains morceaux se consumeront de façon partielle.
Oui.
Et là, on aura justement peut-être la chance de pouvoir récupérer ce qu'on appelle une météorite, hein, qui est donc le résultat de ce phénomène.
Oui.
Et c'est très important d'être être à la recherche des météorites parce que ça permet, en étudiant leur morphologie, leur composition chimique, physico-chimique,
oui.
eh bien, d'avoir une idée un peu plus précise justement sur la formation du système solaire. Bon, je ne ferai
oui.
pas un cours sur les météorites parce que c'est particulièrement
oui,
compliqué, c'est
à
très
la
très
limite.
Très riche.
Mm-hmm.
Hein. Mais il faut savoir qu'il y a des classes de météorites en fonction de leur composition, de leur structure, hein, de leur morphologie. Généralement, ce qu'il y a d'intéressant, c'était étudier ce qu'on appelle les chondrites, parce que les chondrites, en fait, c'est tout l'héritage de la formation du système solaire. Hein. Ce sont des cailloux, des pierres qui remontent à grosso modo à 4,6 milliards d'années. Hein. C'est vraiment des cailloux qui sont particulièrement intéressants. Mmh. Maintenant, vous avez d'autres familles hein, de météorites comme les achondrites, par exemple, qui sont les résultats en fait de fusion, de magma, qui sont généralement constitués de soufre, entre autres. Quoi.
D'accord.
Voilà. Il y a des météorites aussi qui contiennent beaucoup plus de fer, de nickel. Enfin, il y a énormément de choses à dire oui. là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que bon, les chondrites par rapport aux achondrites, les chondrites, c'est tout l'héritage du système solaire. Tandis que les achondrites, on ne parle pas en termes de milliards d'années, mais plutôt en millions d'années, parce que ce sont des formations de cailloux qui oui. sont des formations qui sont beaucoup plus
comment
récentes.
Comment on peut reconnaître un caillou justement qui vient de l'espace et pour le trouver parce qu'on en a des cailloux sur Terre. Comment, il y a une différence ?
Ça peut être bien sûr une analyse simplement, je dirais, à l'œil nu, mais généralement, on va utiliser... Alors, il y a différents types d'appareils hein, qu'on peut oui. utiliser. Ça peut aller jusqu'à l'étude spectroscopique, oui. justement, du contenu donc, de ces pierres, mm-hmm. pour mieux connaître la composition. Et puis, l'abondance également. Hein. L'abondance en éléments chimiques, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Si je reprends l'exemple des chondrites, par exemple, oui. les chondrites, comme je disais, c'est tout l'héritage du système solaire. Et vous savez que notre système solaire, notamment le Soleil, il a une durée de vie grosso modo, 4,6 milliards d'années. Et l'abondance que nous trouvons justement dans ces météorites, eh bien, curieusement, eh bien, on les retrouve aussi dans la composition du Soleil et notamment au niveau de la photosphère, qui est l'atmosphère interne du Soleil. Mm-hmm. Il y a le même type d'abondance au niveau éléments chimiques et ça, c'est oui. particulièrement intéressant.
Il y a beaucoup de questions qui me viennent, mais je ne peux pas les poser toutes. je les poserai un petit peu plus tard puisqu'on va avancer avec l'éphéméride. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet et bien sûr à voir au balcon des étoiles l'observatoire Les Pléiades de la Trappe. La Terre de la Félie, c'est quoi ?
Quand on parle que la Terre est située à la Félie, c'est-à-dire que la Terre est située au point le plus éloigné de son orbite par rapport au Soleil.
Oui.
Hein, quand on parle de périhélie, c'est le point de l'orbite terrestre qui est le plus proche du Soleil.
Oui.
Et l'aphélie, c'est le point de l'orbite le plus éloigné du Soleil. Pourquoi ? Parce qu'on a une orbite qui n'est pas parfaitement circulaire, qui a une forme d'ellipse. Et alors, il y a un grand astronome et mathématicien qui, en 1609, il s'agissait de Kepler, qui a pu élaborer trois lois, ce qu'on appelle les lois de Kepler, et qui expliquent donc justement le mouvement des planètes autour du Soleil. De ce fait, eh bien, on va se retrouver avec des distances très éloignées oui. par rapport au Soleil. Et on va se retrouver avec des distances beaucoup plus proches par rapport au Soleil. Mmh. Quand la Terre est située à l'aphélie, ça veut dire qu'elle est donc située au point le plus éloigné du Soleil. Et là, ça sera situé à 1,017 unités astronomiques. Donc je vous rappelle, chère Gisèle, que l'unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. C'est une distance étalon hein, qu'on utilise oui. pour mesurer les distances dans le système solaire, parce que c'est plus commode d'utiliser l'unité astronomique
oui.
Qu'utiliser des 150 millions de kilomètres.
C'est sûr, je
voilà.
comprends.
La Félie est située à 1,017 unités astronomiques, oui. tandis que le périhélie, hein, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, est situé à 0,98 unités astronomiques.
D'accord.
Là, le 4 juillet, la Terre sera située à 1,017 multiplié par 150 millions de kilomètres, si ceux qui veulent faire la conversion. Et là, vous avez donc la distance la plus éloignée par rapport au Soleil. Le 5 juillet, là, la Lune, d'accord, sera au point le plus proche de la Terre. Oui. Et là, on ne parlera pas de périhélie, mais on parlera de périgée, d'accord. Oui. Elle sera située à 356 410 km hein, par rapport à 400 740 km qui est la distance la plus éloignée. La distance moyenne de la Terre à la Lune, c'est grosso modo 380 000 km.
C'est à côté aussi.
Oui, c'est à côté aussi. Ensuite, le 8 juillet, là, on aura une conjonction Mercure et Mars. C'est vraiment un rapprochement de la planète Mars et de Mercure, hein, qui sont très proches l'une de l'autre. Direction ouest, hein, c'est-à-dire juste après le coucher du soleil.
Oui, oui.
Mais ça sera très 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 compliqué de pouvoir les observer parce que à cause du crépuscule astronomique tardif hein, sur cette période et malheureusement l'éclat de ces planètes risque de se
partir dans cette espèce de brouillard
brouillard c'est un terme
il faut venir à l'observatoire
être plongé dans le crépuscule astronomique, c'est pas forcément évident juste après le coucher du soleil.
Saturne.
Saturne. Alors Saturne, par contre, sera en opposition hein, le 9 juillet. Opposition, ça peut être un terme qui peut paraître barbare. Hein. Ça veut dire que Saturne sera au point le plus proche de la Terre.
D'accord.
Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir assister à un alignement Soleil, Terre et Saturne. Et là, Saturne sera dans des conditions formidables pour pouvoir l'observer. Et avec Jupiter, hein, Saturne et Jupiter, ce sont les vedettes, je dirais, de la période estivale.
Oui.
Parce que ce sont deux planètes que vous pourrez voir plein sud, hein, dans la région du Sagittaire et du Scorpion.
Oui.
Ce sont des planètes qui sont quand même relativement brillantes, qui sont faciles à voir à l'œil nu. Hein. 13 juillet, là, on aura une conjonction entre la Lune et Jupiter. Hein. Donc, je rappelle, une conjonction, c'est un rapprochement de deux astres dans le ciel. Hein. Jupiter sera à proximité de la Lune. Le 16 juillet, ça sera une éclipse de Lune. Ça ne sera pas une éclipse totale, mais une éclipse partielle. La Lune commencera à rentrer dans la pénombre de la Terre à 3h37 du matin. Hein, en heure
visible à
légale.
L'œil nu depuis chez nous.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Et la sortie de la pénombre, en fait, de la Terre sera à 7h50 du matin.
Hein,
en heure légale. Donc, ça va durer grosso modo, on va dire, 4 heures à peu près. La durée totale de cette éclipse partielle de Lune entre le début de l'entrée dans la pénombre et la sortie de la pénombre. Mmh. Là où elle rentre réellement dans l'ombre de la Terre, c'est à 3h37, heure légale. Et la fin de la totalité sera à 6h43, heure légale.
Très bien. Est-ce qu'il y a des projets au Balcon des Étoiles
Bien sûr, il y a des grands projets au Balcon des Étoiles, donc des grands projets de développement avec de nouveaux équipements très performants. C'est un grand projet qui va paraître ambitieux. Et de là, on va pouvoir justement intégrer l'hébergement qu'il y a sur la trappe. Hein. De grands projets qui sont soutenus à l'heure actuelle par le CIVOM.
Oui.
Et le Balcon des Étoiles tient à remercier justement le CIVOM d'Orieux qui nous aide grandement dans cette activité.
Oui.
Et de faire en sorte à ce que le Balcon des Étoiles soit une référence en matière de diffusion de connaissances donc astronomiques. un lieu privilégié pour l'observation. Il suffit de venir à la trappe, hein, pour voir que c'est une carte postale, une vue superbe sur, toute la chaîne des Pyrénées, que c'est un village étoilé également, hein, la trappe.
Le ciel à 360 degrés.
On bénéficie de conditions exceptionnelles pour pouvoir observer le ciel. L'association du Balcon des Étoiles, bon, ça fait grosso modo 25 ans, un quart de siècle que ça existe. C'est passé par différentes phases croissantes afin de pouvoir maintenir cette pérennité dans le temps et que ça soit un pôle de plus en plus attractif, hein, parce que je tiens quand même à rappeler que c'est quand même des groupes scolaires, hein, de plus de 60 personnes, hein, 60 élèves, hein, qui viennent des quatre coins de France au Balcon des Étoiles. Donc on est particulièrement bien référencé au niveau national. Il n'y a pas de raison, bien entendu, que ça s'arrête, bien au contraire. Donc de beaucoup de projets de grands projets d'innovation également pour justement émerveiller encore les gens à l'heure actuelle, les curieux du ciel. Et puis aussi pouvoir redynamiser aussi le site justement de la trappe. Hein,
oui.
Hein, parce qu'indirectement, ça peut générer bien sûr des emplois. Donc il y a un impact fort au niveau social. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un restaurant, un café qui puisse voir le jour même à la trappe.
Tout à fait.
Une épicerie également, ça serait génial, justement, pour être dans cette dynamique.
Oui.
Et toute l'équipe de l'Observatoire travaille, justement, depuis quelques mois sur ces fameux projets. Et je tiens quand même à le préciser, qu'il y aura un télescope automatisé, également à distance. Donc, ça veut dire que en déposant un programme d'observation, il y aura possibilité de pouvoir observer les astres également à distance. Bon, je ne vous en dis pas plus, ça ferait l'objet d'une émission,
tout
je dirais, entière. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus au Balcon des Étoiles.
Tout cet été, évidemment, il y aura beaucoup d'activités au Balcon des Étoiles à la trappe. Plein de choses qui vont se passer.
Tout à fait, mais je tiens quand même à préciser aussi que du 5 au 12 juillet prochain, au village des Marques à Nayou, eh bien, on pourra installer un planétarium à l'intérieur et les visiteurs.
Les gens qui vont passer par
ce village pourront découvrir justement ce fameux planétarium.
D'accord.
6 juillet, il y a une séance de planétarium qui sera à 17h. Hein, il y aura toujours un astro-repas aussi.
Oui.
Donc n'oubliez pas de réserver.
Oui. Hein.
Le 13 juillet, hein, ça sera la nuit de la belle étoile. Ça, c'est un pur produit des Balcons des Étoiles. Hein. On a un brevet, justement, par rapport à cette nuit de la belle étoile. N'hésitez pas à venir nombreux. C'est entrée libre, donc il ne faut pas hésiter. Hein. Je terminerai, bon là j'anticipe sur le mois d'août, le 12 août exactement, eh bien, vous aurez donc ces fameuses Perséides, le 12 août, hein, ces fameuses étoiles filantes que vous pourrez voir dans le ciel. On estime à peu près 80 étoiles filantes à l'heure dans des conditions, je dirais,
c'est
idéales.
C'est énorme.
Voilà.
Et donc ça, pour le mois d'août, on en reparlera, bien évidemment.
Voilà. Et je tenais quand même à préciser
que
ces Perséides, hein, ces fameuses étoiles, on appelle ça aussi les larmes de la Saint-Laurent également. Voilà, de façon poétique. La Saint-Laurent, vous savez que c'est le 10 août.
Eh oui, en
effet. Mais ça fait référence à un diacre romain. Hein, donc là, il faut remonter à 256 après notre ère, qui est malheureusement un diacre qui a énormément souffert. Hein, d'accord. Ces fameuses larmes de la Saint-Laurent, ça fait référence à ce personnage.
C'est parfait, Denis. Merci encore pour toutes ces belles informations.
Avec grand plaisir.
Ces nouvelles du ciel.
Merci à toutes et à tous. À très bientôt.